Il est midi, c'est l'heure de connecter votre cerveau à l'hippocampe, présenté par Fabien Olicard.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabien Olicard, bienvenue sur l'Hippocampe, le podcast où votre cerveau trempe. Un nouvel épisode tous les mardis et vendredis, sauf des fois où il n'y en a pas pendant quelques semaines et je m'en excuse. Et sinon, c'est à midi pile sur toutes les plateformes de podcast où je vous invite à vous abonner, à laisser une belle note. C'est ce qui fait vivre ce podcast parce que ça nourrit l'algorithme. Et au sommaire, aujourd'hui, eh bien, comme la dernière fois, c'est une sorte d'interview, on va dire de discussion plutôt qu'un interview, où j'ai mis un formulaire en fait dans le Linktree que vous avez dans la description de cet hippocampe où vous pouvez vous inscrire. Les personnes s'inscrivent et après je vous recontacte et puis on discute de ce que vous faites, des problèmes que vous avez. Des fois j'ai des idées, des fois j'en ai pas, des fois il y a des pistes. Mais ça fait toujours du bien de discuter en fait, on va dire entrepreneuriat pour utiliser un terme un petit peu large parce que ça stimule toujours une conversation à deux. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est l'hippocampe le plus cher de tous mes hippocampes puisque le coup de fil que je passe est aux États-Unis et on va être avec Emeline aujourd'hui. Bonjour Emeline, tu m'entends ?
Oui, bonjour Fabien, tu m'entends aussi ?
Oui, je t'entends très bien. Tu m'as dit qu'il était 9h du matin pour toi, c'est-à-dire il est 18h pour moi. Et toi, tu habites aux États-Unis depuis 5 ans avec toute ta petite famille, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. T'as résumé. Tu veux que je raconte un peu où ce qui m'a fait arriver ici ?
Eh bien, avec grand plaisir.
Ok, donc alors pour commencer... j'ai un diplôme d'ingénieur français et j'ai travaillé 6 ans en France en bureau d'études. Et ensuite, en fait, c'est mon mari qui a été muté, qui a eu l'opportunité de venir travailler aux États-Unis. Donc, j'ai tout quitté là-bas et je l'ai suivi et je suis venue m'installer ici avec lui et notre petit garçon. Je suis arrivée enceinte de mon deuxième enfant. Et donc, pendant quelques temps, pour m'acclimater, etc., j'ai pas travaillé. Et j'ai ensuite cherché du travail. Donc là, je travaille actuellement, donc ça fait bientôt 4 ans, en tant qu'ingénieur projet dans du suivi de projet dans le domaine de la construction. Et donc, c'est un boulot à plein temps. Et donc, en fait, pendant la période où je n'ai pas travaillé, j'ai développé un petit peu une passion qui était de la couture, en fait, juste la création de choses à faire en couture, etc. Et donc, j'ai mis ça un peu de côté quand j'ai recommencé à travailler à temps plein. Et avec la pandémie qu'il y a eu l'année dernière, avec le confinement, la difficulté de travailler dans le secteur, dans notre secteur, la construction, où tout a été un peu mis à l'arrêt, etc., mon entreprise a licencié à peu près la moitié de l'effectif. Donc, pas moi, heureusement, d'un côté, mais du coup, ça m'a fait quand même poser pas mal de questions sur, si ça s'arrête pour moi, qu'est-ce que je vais faire ? Et en parallèle, mon mari, lui, avait peut-être possibilité de partir au Texas, donc changer d'état. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui puisse être fait un peu n'importe où, quelque chose qui me fasse plaisir, quitte à changer. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le business de vendre mes créations de couture. Et donc, j'ai monté l'été dernier une entreprise toute seule en entrepreneuriat, on peut dire ça, pour mettre en ligne des choses que je crée.
D'accord, ok.
Et donc, c'est ce sujet-là qui m'amène aujourd'hui.
Mais ça, c'est super. Alors, j'explique un petit peu à celles et ceux qui nous écoutent. Contrairement à d'habitude, je réagis pas trop vite à ce que tu dis parce qu'on a un petit décalage, toi et moi, du fait que tu sois aux États-Unis, je pense. On a un tout petit décalage quand on se parle de quelques secondes, peut-être une seconde, hein, juste une au téléphone. Mais du coup, si je te coupe pendant que tu parles avec le décalage, ce ne sera pas très confortable pour toi comme pour moi. Donc, c'est pour ça que j'attends bien que tu aies fini de parler avant de reprendre la main. Mais du coup, bon, tout ça est très intéressant. Et du coup, déjà, on peut se dire que tu vis avec 3 capes de super-héros, c'est-à-dire de base le job à plein temps, le fait d'avoir une vie intégralement consacré à sa famille, un mari et 2 enfants, c'est pas rien à s'occuper, ça fait 3 enfants, hein, si je comprends.
Ouais.
et puis évidemment ton activité d'entrepreneuse, d'auto-entrepreneur, les seuls proprietorship, c'est ça, aux États-Unis.
Exactement, ouais. C'est ça, ouais.
Et donc, on va dire, c'est les indépendants, quoi, un petit peu en équivalent français. Et du coup, tu dois alterner entre ces 3 casquettes en ayant qu'une seule semaine au final, où il n'y a bien que 7 jours et 24 heures par journée.
Ouais, c'est un peu ça aussi, ouais, c'est très challenging de trouver le temps de faire tout ça, et surtout, je pense que ayant un passé où j'ai été salariée toute ma vie, il y a plein d'aspects de l'entreprise que je connais pas et que je maîtrise pas du tout, en fait, en termes de marketing, de communication et ce genre de choses, et je pense que c'est là où ça pêche en ce moment, quoi, parce que mon site internet est créé, donc je suis passée par une plateforme comme pour toi, pour ta boutique Brainstorm. Moi, j'ai pris BigCommerce, donc j'avais déjà quasiment un package où, en fait, j'ai acheté un domaine, mais je présente tout directement par ça. Et en fait, maintenant, c'est la communication sur mes produits et pour la visibilité et le manque de temps pour axer un peu tout, enfin, ma vente sur ça, quoi.
Oui, ben, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu te lances en indépendant, d'un coup, tu as trop de casquettes d'un coup. C'est-à-dire que là, mine de rien, tu as fait le boulot de quelqu'un qui crée la boutique. Donc, tu as dû développer ou approfondir des compétences dans la création de sites Internet. Même si tu passes par une plateforme, ça prend quand même énormément d'heures de bien comprendre la plateforme, de l'optimiser, de le rendre à son propre design, de faire ses designs, etc., etc. Donc, on va dire, tu as repeint les murs du magasin que tu as trouvé, et maintenant, comme il n'y a pas de clients dans la rue spontanément sur Internet, il faut les trouver. En fait, je crois que ça commence par deux questions un peu qui vont en parler l'une de l'autre. C'est la première étape, est-ce que c'est important d'en vivre ? Si la réponse est non pour le moment, ou oui dès demain, Je crois que c'est pas les mêmes approches, en fait, qu'on va avoir pour sa boutique en ligne. Et puis la deuxième question, c'est à quel point tu es prête que ça se développe. Et cette question-là, elle peut paraître très étrange, parce que tu te dis, bah, justement, déjà, j'aimerais que ça se développe un petit peu, tu vois. Mais dans la manière de faire, moi, je l'ai vécu d'expérience quand j'avais lancé une boutique éphémère il y a 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Cette boutique éphémère, pour te dire, je l'ai fermée au bout d'un mois parce qu'elle marchait soit trop bien, soit pas assez. Et en gros, j'avais une dizaine de commandes par jour, et préparer ces commandes et les poster me prenait toute ma vie, et gérer le SAV aussi, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ne reçoit pas son colis, etc. Donc ce que j'en ai retenu, c'est quand on monte un système comme ça, de bien vérifier que si une de tes actions commerciales elle tabasse comme ça du jour au lendemain, et elle te fait faire x10 du jour au lendemain, est-ce que tu es prêt aussi à accueillir ce volume-là ? Et tu vois, ces deux questions-là, voilà. Est-ce que le but est d'en vivre tout de suite à moyen terme ou non ? On verra comment ça fait. C'est important d'y répondre. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est important de pouvoir regérer un volume plus fort ? C'est ce qu'on appelle c'est ce que font les startups, en fait, hein, d'être scalable, c'est-à-dire du jour au lendemain de pouvoir faire x10 ou x1000 utilisateurs et d'être prêt. Est-ce que ça a été pensé en amont ou pas, parce que ça va impacter aussi un peu ta stratégie marketing, tu vois.
Ouais, alors pour répondre à la première question, non, j'ai pas pour but à moyen terme, même à long terme, d'en vivre, en fait, parce que pour l'instant, je compte pas quitter mon travail pour ça, on va dire. Si un jour je vois que ça marche vraiment trop bien, dans le sens où ça me prend vraiment le temps, je pourrais y réfléchir en me disant, ok, je peux peut-être passer à mi-temps ou me libérer plus de temps, voir comment ça fonctionne, etc. Après, ce que je fais quand même, c'est quand même de l'artisanat, donc je pense pas pouvoir monter une grosse entreprise autour de ça. C'est quelque chose que je fais à la main et à la limite, je pourrais peut-être voir si... De toute façon, en seul entrepreneurship, je peux pas, propriétaire-ship, je peux pas embaucher quelqu'un. Il faudrait que je change de statut. Okay. Donc, dans tous les cas, je serai toujours toute seule dans cette entreprise. Et si ça marche vraiment trop bien, il faudra juste que je m'organise de façon à ce que les commandes... soit je préviens sur les délais de commandes, soit je n'en accepte plus, quoi, ou ce genre de choses. Mais ce que je voudrais déjà, ça serait un minimum de commandes. Parce que là, pour l'instant, à part quelques ventes à Noël que j'ai réussi à faire grâce à un réseau Facebook de Français vivant aux États-Unis, et donc j'ai fait des livraisons en France pour des cadeaux de Noël... À part ça, j'ai pas fait d'autres ventes, en fait. Donc, j'ai pas de visite organique sur mes sites. il faut que j'en fasse la pub et c'est la manière de faire qui manque.
Ouais, je comprends tout à fait, mais du coup, c'est assez passionnant ce que tu viens de raconter là, parce que moi, ça me permet, en tout cas, encore une fois, à mon avis, c'est pas forcément le bon, c'est juste une discussion entre toi et moi, mais sauf qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, et ça, c'est très gênant, arrêtez de faire ça. Mais si à partir du moment où tu viens de m'expliquer ce qui me paraît logique, mais dont j'avais pas forcément conscience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as que deux mains. Et comme c'est de l'artisanat, tu ne vas pas surproduire et qu'en plus, tu ne peux pas engager quelqu'un pour déléguer une partie de la production si tenté, tu aurais eu envie de le faire. Ça veut dire que ta manière de communiquer, de marketer, elle va être différente. Quand tu m'avais écrit le message, tu m'expliquais que tu avais un peu lancé les réseaux sociaux et tu te demandais si c'était une bonne idée, comment faire, etc. Moi, je m'étais préparé à te dire, écoute, c'est peut-être pas le bon chemin. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, eh ben en fait, je trouve du coup que je reviens sur ce que j'avais prévu de te dire, c'est-à-dire que les réseaux sociaux peuvent être un bon chemin parce que on cherche à toucher en fait une niche de personnes, une clientèle très ciblée et pas forcément en masse. Et souvent, on pense aux réseaux sociaux qu'on veut toucher la masse, mais ça, c'est pour ceux qui ont des gros budgets publicitaires et qui veulent taper fort. Mais en vrai, en réalité, ton artisanat, comme son nom l'indique, il y a le mot art dedans, ça se rapproche des œuvres d'art en fait. C'est-à-dire, tu peux pas en produire une quantité illimitée par jour et en plus, elles dépendent de toi. Donc, on va rattacher quand même ce que tu produis à qui tu es. Alors, qui tu es, ça veut pas dire te mettre en scène absolument sur les réseaux sociaux, mais ça veut dire en tout cas, on va suivre les, je sais pas comment s'appelle ton site, mais on va suivre les productions d'Emeline en l'occurrence et pas on cherchait une production de ce style et on est tombé sur Emeline. Je pense que ça va être le chemin inverse où ta marque et ta personne vont identifier en fait ce que tu fais. Alors que vraiment, moi, j'étais parti un petit peu dans ma tête sur l'inverse. Effectivement, comme tu as pu le constater, un site internet, c'est à la fois important parce que c'est ton outil de vente pour finaliser ta vente, et c'est important parce que c'est aussi une carte de visite, mais effectivement, ça ne génère à ce jour plus du tout de trajet organique. Même moi qui ai quand même une communauté relativement dense, mes visites sur mon site internet, elles sont pas dingues, tu vois. C'est pas des choses très référencées. Les choses qui se référencent bien aujourd'hui sur internet, sur un site, ça va toujours être du contenu relativement frais, de l'info, de la science, de l'astuce. C'est pour ça que beaucoup écrivent d'ailleurs dans leur page actu des petits billets de blog en rapport avec l'actualité pour référencer les mots-clés. Google est très gourmand en plus de la fraîcheur de l'information, donc quelque chose qui vient juste d'être posté, d'être établi d'ailleurs. Toutes les plateformes en général ont un truc de mettre en avant en plus un petit peu ce qui vient de paraître. Bref, c'est très dur à faire vivre un site internet naturellement. Donc après, il reste deux options. Il reste l'option chercher des gens dans le monde réel pour les amener sur internet et ou alors chercher du monde sur internet pour l'amener sur ton site internet. Pour le monde réel, là, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on passe par un truc de budget. Et ça, je ne crois pas que ça t'intéressera, qui est, tu fais une publicité que tu vas coller à droite à gauche dans les magasins, dans les boutiques, etc. Tu fais de la publicité avec, même un magazine ou un panneau d'affichage, ou soyons fous, une pub à la télévision. Mais là, on n'est pas quand même sur ce modèle-là. Soit tu infiltres des communautés.
C'est pas le but,
c'est ça. Et puis, c'est pas le but. Soit tu infiltres des communautés. C'est un petit peu ce que tu as fait indirectement avec la communauté française vivant aux États-Unis à Noël. Ça, on voit que c'est intéressant. Par contre, ce qui est... ça me fait penser tout de suite à un truc qui vient du bouquin, je crois que c'est les 12 secrets de la machine à vendre, un truc comme ça qui est assez intéressant, qui dit que ça coûte très cher de chercher un nouveau client, ça coûte très cher en argent et en énergie, donc il faut aussi apprendre à fidéliser ses clients et les faire revenir. J'ai une question toute bête, mais toutes les personnes qui ont passé commande au mois de décembre, tu as encore leur adresse mail?
Oui.
Oui, ok.
Oui, j'ai l'adresse email. J'ai aussi envoyé un email pour qu'il me fasse une revue sur mon site. Donc, il y en a une qui l'a fait et l'autre, il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'il ferait et qu'il n'a pas fait. Alors, je n'ose pas vraiment aussi relancer. Et je peux éventuellement, oui, les recontacter. Ouais.
Alors, les recontacter, les reviews, bon. C'est intéressant, mais c'est peut-être pas primordial. C'est surtout de se dire stratégiquement comment faire pour que Au lieu qu'ils commandent une fois par an, peut-être ces gens-là peuvent peut-être commander deux fois par an, peut-être recevoir un mail avec tes dernières créations sans chercher à les vendre en disant « j'avais envie de donner vos nouvelles, voici où j'en suis, voici ce que je viens de créer récemment, j'espère au fait que vous êtes toujours aussi satisfait de l'ancien produit, etc. » Peut-être ça peut leur plaire. En tout cas, ça va raviver tes créations à leurs souvenirs. Et puis peut-être aussi leur proposer quelque chose de tout bête, c'est-à-dire comme un système de parrainage, ça peut être avec un mot-clé, ça peut être un code, avec ce que tu veux. C'est-à-dire que s'ils t'amènent un nouveau client, eh bien ce nouveau client aura une réduction et puis eux aussi en auront une. Alors ça peut être 5%, ça peut être 10% ou ça peut être un petit cadeau en plus, tu vois. Mais pour stimuler un peu ce bouche-à-oreille, parce que ces clients-là, pour qu'ils régénèrent un petit peu chez toi, et comme ils existent déjà, on sait qu'ils sont déjà convaincus, le meilleur moyen, c'est soit qu'ils repassent une commande, soit qu'ils génèrent une commande par leur entourage, qu'ils commencent à générer ce bouche-à-oreille-là, tu vois.
Ouais, j'ai déjà prévu que ceux qui reviendraient sur le site auraient une réduction de base. Et ça, je l'avais mis dans les mails pour ceux qui envoyaient directement leur colis en tant que cadeau en France. Ou sinon, ceux qui recevaient le colis chez eux, je leur avais fait une petite carte en mettant si vous réutilisez votre adresse email au check-out, vous aurez, je crois que j'avais mis 30% de réduction.
Donc, ah oui, en plus, ouais, c'est pas rien. Ben ça vaut le coup de refaire un mail qui parle de choses un peu sympas, qui n'est pas très vendeur, tu vois, qui n'est pas agressif dans la vente, mais par contre qui remet en valeur ça. Je prends l'exemple, j'ai passé une commande là pour faire imprimer un tableau récemment, j'ai reçu pareil une offre à l'intérieur, et cette offre-là, elle était presque trop tôt parce que j'étais tellement concentré à déballer, à regarder mon produit, et je venais de passer une commande, donc cette information, elle n'était pas très importante, tu vois, et je me dis que si ces mêmes personnes, elles m'envoyaient soit un mail, soit une carte postale d'ici 2 mois ou 1 mois pour me rappeler que j'avais le droit à cette réduction, là, ça aurait un impact, tu vois, parce que émotionnellement, le cerveau est ce qu'il est, mais il est parasité à la réception de la commande par la commande en elle-même, quoi, tu vois, il n'y a que ça qui compte. Et le reste peut malheureusement partir à la poubelle. Bon, ça, je pense que ce serait un bon truc déjà de relancer un petit peu ça, ces personnes qui te connaissent déjà, soit parce qu'ils ont été commanditaires, soit parce qu'ils ont été les bénéficiaires de ce qu'on leur a offert. Et puis, effectivement, la deuxième chose maintenant, je crois que les réseaux sociaux, pour toi, ce serait pas mal. C'est quoi exactement, toi, ce que tu fabriques ?
Alors, pour ma boutique, je me suis concentrée sur la personnalisation de sacs en toile.
Okay.
Je thermocolle du vinyle que ma machine découpe dans le design que je lui donne. Et par exemple, là, pour Noël, les idées de cadeaux, c'était les gens qui commandaient m'envoyaient un dessin de leur enfant, fait normalement, dans l'idéal, au marqueur noir sur un papier blanc, que moi, je vectorisais sur l'ordinateur et que du coup, je transférais sur un sac.
Et okay.
Donc, c'était généralement pour des grands-mères ou pour des mamans. Et du coup, elles ont leur sac avec le dessin d'un enfant ou de leurs petits-enfants sur le sac. Donc là, voilà. Ça, c'est un exemple. Après, je peux faire des designs d'été, de Noël. Là, je suis en train de coudre moi-même donc des sacs un peu paniers avec une tête de lapin dessus pour les enfants pour aller chercher les autres sacs à Pâques.
Ok, c'est super. Mais tu vois, c'est très très cool. Ton Instagram, est-ce qu'il est plein d'exemples de ce genre de choses ?
Ouais, il est plein d'exemples. Je raconte un peu plus les backstage en fait sur Instagram parce que je me rends compte que les gens qui me suivent, c'est les gens qui sont un peu dans le même domaine que moi, à utiliser les mêmes machines, à faire du craft ou de la création, de la couture, ce genre de choses. Ça ne sera pas forcément des potentiels acheteurs. Mais, et du coup, j'avais commencé en mettant juste mes produits et finalement, en description, vous le retrouverez sur mon site internet, je voyais que ça ne marchait pas trop. Alors, je fais plus du backstage ou alors du coup, je me montre, je fais des timelapses de moi en train de fabriquer des sacs. Ou alors je fais deux exemples différents et je dis lequel vous préférez, etc. J'ai compris que pour faire marcher Instagram, il faut de l'interaction. Et donc, du coup, j'essaye de le faire comme ça. Mais du coup, je n'ai pas vraiment non plus le temps de poster vraiment.
Bien sûr. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie.
Je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Et ben, c'est exactement ça. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'y investir. Je pourrais éventuellement investir un peu plus de temps et d'énergie dans ça. Donc je prends tous les bons conseils.
Moi je crois pas qu'il faille investir énormément de temps, parce qu'effectivement ton but c'est pas d'avoir une communauté de 100 000 ou 1 million de personnes, mais d'avoir plutôt une communauté de 10-15 000 personnes qui aiment tes produits et qui sont acheteurs, tu vois. Donc je pense que ce serait intéressant déjà dans un premier temps de commencer à faire un ratio de contenu backstage et démonstration, c'est-à-dire avant de faire venir une nouvelle communauté, de si je vais par hasard sur ta page Instagram, que tout de suite je vois des choses qui stimulent mon œil en mode « Ah ouais, elle peut faire ça, elle peut faire ça, elle peut faire ça » dans plein d'univers différents. Et ce que je ferais dans un second temps, si j'étais à ta place, et je pense vraiment que c'est peut-être la meilleure idée que je peux avoir pour toi, c'est d'envoyer en fait des sacs personnalisés qui t'ont pas été demandés à d'autres Instagrammeurs qui ne sont pas de ton milieu, et sans rien leur demander en retour, en mettant un petit mot, une petite carte à la main avec ton arrobase, etc., et en leur faisant un peu cette surprise-là, cette surprise cadeau. Je te donne un exemple très concret. Moi, tu m'envoies un sac personnalisé avec mon cerveau, tu sais, que j'utilise tout le temps, ou un truc comme ça. Je vais être super content du cadeau. Je vais voir la petite carte. Il y a 9 chances sur 10 que je fasse des stories pour te remercier en faisant voir le truc, parce que c'est mon logo et ça me parle, et du coup je vais trouver ça stylé, et que je te fasse une petite promo du coup que tu n'auras pas payé, que tu n'auras pas sollicité. Ou d'ailleurs, si tu avais contacté quelqu'un pour moi pour faire une promotion rémunérée sur ce principe-là, j'aurais certainement décliné, parce que ça n'a pas de sens. Mais là, de recevoir un cadeau, tu vois, on a tendance à le faire. Et le secret pour ça, je l'ai remarqué, c'est de pas se tromper de valeur de cible. C'est-à-dire, si tu envoies un cadeau à quelqu'un qui a 10 000 abonnés, par exemple, une jeune fille ou une jeune maman ou un jeune homme, ou peu importe, tu vois, en fonction de ce que tu lui prépares, à quelqu'un qui a 10, 15 000 abonnés, ce qu'on appelle les micro-influenceurs, c'est très impactant, parce que c'est pas habituel, si tu veux, tu vois. Et le problème, c'est que souvent, moi, je reçois des trucs de personnes qui m'en envoient beaucoup en masse, et ça impacte moins parce que, ben, comme j'ai une plus grosse communauté, je reçois beaucoup de choses. Et on néglige un peu ces communautés de 10, 15 000, 20 000 personnes. C'est quand même énormément de monde, 20 000 personnes ou 15 000 personnes. Sauf qu'eux, ils n'ont pas l'habitude en fait, d'avoir une petite pensée agréable pour eux, tu vois. Et s'ils reçoivent ça, oui, mm-hmm. ça a un impact très fort, et c'est quasiment sûr qu'ils en feront une story. Et en plus, il y a de grandes chances qu'ils en fassent un post en dur, parce que ça leur fait aussi du contenu très original d'avoir un sac personnalisé pour eux que tu leur as envoyé. Et il y a une espèce de code déontologique qui fait qu'on cite toujours la personne qui nous envoie le cadeau, et ça générerait un flux chez toi, et pas n'importe quel flux en plus, un flux généré par des personnes qui ont vu l'un de tes produits. Et ça, je pense que ça te mangerait pas trop en finance, à part le coût de fabrication évidemment, et que ça te demanderait moins d'énergie que de réfléchir à faire des posts tous les jours, des stories tous les jours absolument pour fournir du contenu, et que ça te ferait grossir comme ça une communauté de gens, ce qu'on appelle qualifiés, c'est-à-dire que peut-être qu'un compte à 15 000 personnes, il va te ramener 800 personnes. Alors on se dit que 800 sur 15 000, c'est pas énorme, sauf que c'est 800 qui ont vu ton produit et qui sont venus te suivre parce qu'ils ont aimé voir ton produit. Donc en fait, c'est très intéressant, tu vois, comme approche. Moi, je partirais sur quelque chose de comme ça, je pense.
Oui, j'aime bien l'idée de créer quelque chose de personnalisé pour la personne. Par contre, après, déjà, bon, la choisir, éventuellement, ça prend un petit peu de temps, parce que tu te dis, je veux prendre quelqu'un qui... Que j'apprécie, etc. Et après, comment tu fais pour avoir ses coordonnées si tu veux lui faire une surprise? Elle va peut-être pas forcément répondre à un message privé en te donnant son adresse, tu vois?
Ben, moi, je pense que si. Nous, ça nous arrive souvent, où je pense à des gens que j'aime bien et qui pourraient d'ailleurs apprécier ça, comme Margot, des astuces de Margot, Margot Tips. En fait, quoi qu'il arrive, les créateurs de contenu... Alors, quand je dis les créateurs de contenu, je pense à des gens relativement adultes, tu vois, moins ados. On lit tous, on passe tous un œil, en fait, dans nos DM, même si on ne peut pas répondre à tout le monde, ça prend trop de temps. On jette tous un œil à nos DM, donc il y a quand même de fortes chances qu'elles le lisent. Et souvent, ces personnes-là ont des points de contact un petit peu ailleurs. Tu vois, c'est par exemple quelqu'un qui a Instagram et YouTube. Si tu vas dans son onglet à propos de YouTube, c'est sûr que tu trouves l'adresse mail, le contact, parce que eux, quoi qu'il arrive, essayer d'avoir un point de contact clairement visible pour que les marques puissent les contacter. Donc en fait, dis-toi, c'est comme si tu étais une marque qui voulait leur proposer une OP, et tu vas trouver un point de contact. Et après, dans ce point de contact, c'est de dire bonjour, je te suis, j'apprécie pour telle et telle raison, et j'aimerais t'envoyer un cadeau. Est-ce que je peux avoir tes coordonnées? Tu es quasiment sûre et certaine que tu recevras les coordonnées en retour.
Ok.
Tu vois, c'est nous assez régulièrement.
Assez régulièrement,
je reçois des DM, on me demande d'envoyer un petit mot, un petit truc comme ça. On les voit tous passer, on y répond tous. Et les personnes que je connais dans le milieu, soit c'est des personnes qui sont, on va dire, plus de l'ordre de 10-15 000 abonnés. Et donc, ils lisent tous les DM et souvent ils y répondent pour fidéliser leur communauté et puis parce qu'ils aiment ça évidemment. Soit c'est des très gros créateurs et dans ces cas-là, ils ont quelqu'un qui travaille avec eux et qui, quoi qu'il arrive, passe dessus. Parce que vraiment, c'est peut-être le secret que je donne à ceux qui nous écoutent, mais l'angoisse des créateurs de contenu sur Internet, c'est de rater l'offre d'une marque. Donc quoi qu'il arrive, du coup, ils regardent tout, tu vois. Mais je pense, là je parlais de créateurs de contenu sur Instagram, mais en plus ça peut être dans d'autres milieux. Hein. Il suffit de personnes un petit peu influente dans un milieu et c'est intéressant en fait de se dire ben voilà, si je leur offre un truc, ils vont le faire rayonner s'ils aiment bien. Et en général, quand on nous offre quelque chose qui est personnalisé à nous, c'est sûr qu'on aime bien. Là, je reprends encore mon propre exemple parce qu'il n'est pas si mauvais, mais il y a des créateurs de néons qui m'ont fabriqué pareil, un néon en forme de cerveau. Ben, en fait, il est dans mon décor, j'en ai parlé en vidéo, j'en ai parlé sur les réseaux. S'ils m'avaient demandé à faire une opération commerciale, ça leur aurait coûté quand même pas mal d'argent. Là, ils ont rien payé et j'en ai parlé partout, tellement j'étais content de recevoir ça. Donc, je pense vraiment qu'il y a un petit coup à jouer dessus.
Mmh. Ok. Et tu penses que pour aborder ces personnes, je dois leur dire ce que je compte leur envoyer et leur demander leur adresse simplement, en fait?
Ouais, moi je pense qu'il faut garder un petit peu de suspense, tu vois, tout en stimuler la curiosité. Il faut lever le voile, mais pas trop, c'est-à-dire, je pense qu'un des points forts, c'est de dire « Bonjour, je m'appelle Emeline, j'ai tel âge », tu vois, l'âge va rassurer, c'est pas histoire de se dire « Ah tiens, c'est pas juste un fan ou une fan qui m'écrit, tu vois, donc je m'appelle Emeline, j'ai tel âge, je crée... des choses artisanales et j'ai une idée pour toi, j'aimerais beaucoup t'en faire ce cadeau, est-ce que tu peux me donner une adresse ou l'envoyer ?» ça suffit, tu vois. Moi, je trouve que c'est assez stimulant de se dire « Ok, je sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est une pro, tu vois ce que je veux dire ? Elle me demande pas mon adresse, mais une adresse pour l'envoyer, donc elle a conscience que je vais pas donner mon adresse perso et c'est pas ça qu'elle veut, tu vois ce que je veux dire ? C'est parce que souvent, ils vont t'envoyer l'adresse de leur locaux, de leur bureau, des choses comme ça. Donc, ça, c'est aussi simple que ça. Et ça, je pense que c'est vraiment un bon système pour Instagram, en l'occurrence. Pour Facebook, c'est un petit peu différent. Tu travailles un peu sur Facebook ou pas ?
Oui, alors j'ai les deux comptes liés, hein, le Instagram, ouais. Quand je poste une photo, ça se poste aussi sur ma page Facebook. Après, j'ai moins d'interactions sur Facebook. J'essaye de faire un peu de la pub sur les groupes où je suis personnellement, mais du coup, c'est là où ça a marché à Noël. Mais par exemple, pour la Saint-Valentin, j'ai fait la même chose et ça n'a pas marché du tout.
Facebook, c'est quand même assez compliqué à travailler. Facebook a un avantage qu'aucun autre réseau social n'a quasiment aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir partager sur son propre mur la publication de quelqu'un d'autre. Ça, c'est assez précieux, mais du coup, ça sert quand même beaucoup pour les choses qui soit te font rire, soit t'apprennent quelque chose. Ça marche, ou alors vraiment quelque chose qui t'a interpellé en termes d'œuvre d'art aussi et que tu veux partager. Pourquoi ? Parce que ce que les gens partagent, c'est ça envoie quelque chose sur qui ils sont eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? Si demain je partage une œuvre d'art incroyable, eh bien j'envoie comme message aux autres inconsciemment que je suis le genre de personne qui sait apprécier l'art, tu vois. Le seul truc sur Facebook pour avoir un petit peu de partage comme ça et donc de brasser un petit peu plus de communauté, c'est soit faire apprendre quelque chose, soit faire rire, stimuler une émotion, parce que là, je dis rire, mais c'est stimuler une émotion. Hein. Ça peut être aussi la colère, ça peut être la joie, la tristesse, tout ce que tu veux. Soit que la personne envoie un message positif d'elle-même si elle partage. D'expérience, je peux te dire, ça prend énormément de temps pour des résultats quand même assez faibles. Et aujourd'hui, les entreprises qui travaillent Facebook, c'est surtout eux, ils investissent quand même financièrement en fait, dans de la publicité ciblée. Et là, ça demande quand même pas tant d'argent que ça, mais quand même beaucoup, beaucoup de temps pour bien comprendre, pour faire de l'A-B testing, etc. Je pense encore une fois que dans ta situation, moi, c'est pas quelque chose de prioritaire. Tu vois, moi, je pense vraiment que ton activité en elle-même et les opportunités qu'elle offre, ça vaut le coup que tu prennes du temps sur Instagram, mais pas tant que t'en perdes beaucoup sur autre chose. Parce que je garde toujours aussi en tête le fait que, bon, t'as quand même un boulot à côté et t'as quand même deux enfants à côté. Et que, mine de rien, bah, tout ça, ça prend quand même pas mal de temps, quoi. Hein.
Ouais, non, c'est vrai. Et j'avais aussi pensé éventuellement à peut-être faire des vidéos un peu plus tuto. Mm-hmm. Alors, ça peut être des vidéos très courtes sur Instagram où j'explique des choses, ou alors éventuellement même des vidéos YouTube carrément, du coup qui n'amèneraient pas forcément des acheteurs potentiels à regarder ces vidéos-là, mais du coup à me faire un peu plus connaître.
Alors ça c'est intéressant.
Ça prendrait beaucoup de temps aussi, évidemment.
Ça, c'est intéressant. Toi, tu pourrais gagner en temps en essayant au maximum de faire un tuto où il y a assez peu de montage, tu vois, parce que c'est le montage hein, qui prend du temps pour les vidéos. Par contre, c'est une très bonne idée pour deux choses. Alors, pour YouTube, d'abord, faut pas oublier que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Le premier étant Google, mais ça reste un moteur de recherche YouTube, mine de rien. Et comme il est affilié à Google, c'est très bon de créer du contenu sur la plateforme. Et du contenu comme le tien, ce serait du contenu un peu atemporel, tu vois, qui se fait référencer. C'est du contenu qui doit répondre à un comment ou un pourquoi. Et tu vois, moi, les vidéos qui cartonnent le plus dans le temps, c'est le cas par exemple pour Doc Seven ou pour Poisson Fécond ou pour moi, ou pour Y Penser, c'est les vidéos comment faire trois petits points. Pourquoi ça, trois petits points? Parce que c'est pas lié de l'actu et comme c'est un moteur de recherche, eh bien, tu peux devenir un peu maître de ta niche, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est assez intéressant pour YouTube. Et pour Instagram, ça peut être intéressant effectivement de faire des vidéos relativement courtes. Il y a un glitch en ce moment sur Instagram. Et je vais t'en parler comme ça me permet d'en parler à tous ceux qui nous écoutent. En ce moment, YouTube fait moins de vues qu'avant. Mais les créateurs le constatent, on fait moins de vues qu'avant en termes de proportion vues versus nombre d'abonnés. Et Instagram, pareil, a un peu moins d'interactions de ses utilisateurs. La grande réponse à cet état de fait, c'est à cause de TikTok. Alors, pas parce que TikTok fait des vidéos rigolotes, mais parce que TikTok, en tout cas, est consommé par beaucoup de gens. Et plus les gens passent du temps sur une plateforme, moins ils en passent sur une autre. Donc, pour essayer de contrecarrer ça, Instagram a lancé les Reels, qui sont clairement l'équivalent des TikTok. Et comme ils ont lancé ça pour essayer de récupérer cette communauté qui va sur TikTok, eh bien, ils ont tendance à mettre les Reels beaucoup plus en avant que les posts, les stories ou les IGTV. Donc, en ce moment, en tout cas, jusqu'à ces derniers jours, ça fonctionne pas mal. Si tu fais des Reels sur ton activité, tu verras que tu auras des meilleures statistiques que n'importe quelle autre chose d'Instagram. Tu vois ? Et petit bonus, YouTube va sortir un truc qui s'appelle je sais plus, mais ça va être aussi l'équivalent d'un format très court directement sur YouTube et qu'on va voir passer. Moi, je suis en version bêta sur ce truc-là et je vois passer des gens à qui je suis même pas abonné.
Les shorts.
Oui, les shorts, exactement.
Donc ça s'appelle shorts, ouais.
Ah oui, bah oui, vous l'avez aux États-Unis bien sûr et en Europe c'est pas encore tout à fait développé, c'est encore en bêta. Donc les shorts sur YouTube et les reels sur Instagram sont vraiment poussés. C'est un peu un glitch parce qu'ils essaient de lancer ça. Et d'une manière générale d'ailleurs, hein, quand vous entendez une nouveauté mise en place par une plateforme, vous pouvez être sûr et certain que cette plateforme elle va faire surperformer cette nouveauté-là parce qu'elle ne l'a pas lancée pour rien. Donc, elle veut que ce soit mis en avant. Mais faire comme ça des vidéos assez rapides, je pense que ça peut être intéressant pour toi parce que c'est shareable, c'est partageable. Et en plus de ça, quand la vidéo est courte, ça ne demande pas un gros engagement de la regarder. Tu vois, si moi, je vois une vidéo sur ton activité qui dure 5-6 minutes, puisque je ne suis pas une cible de départ, peut-être à tort, mais je ne vais pas me considérer comme cible de départ, mais je ne vais peut-être pas la regarder. Alors que si je suis accroché directement dès le début de la vidéo et que je vois qu'elle dure une minute ou deux minutes, je n'engage pas ma journée à le regarder. Je ne vais pas avoir l'impression de perdre mon temps. Donc ça peut être pas mal de commencer à faire des vidéos courtes. Comme ça, toi, tu ne te prends pas trop la tête non plus. Ça reste des choses courtes. Et encore une fois, ça c'est un truc que j'avais dit dans un autre hippocampe, vaut mieux fournir plus souvent, avec plus régularité et un peu moins de qualité de vidéos au départ, parce que de toute manière, les vidéos que tu vas faire dans 3 mois, ça aura déjà évolué. Aujourd'hui, tant que tu n'en auras pas fait pas mal, tu ne sais pas exactement celle que tu veux faire, tu n'as pas encore ta mécanique, donc ça ne sert à rien de te casser trop la tête. Tu vois, ta vidéo, il faut juste qu'elle soit... Elle soit jolie à l'œil, que tu saches ce que tu viens y présenter. Et puis après, il ne faut pas passer des mois à faire la lumière ou des mois à faire du montage derrière. Il faut commencer à apprendre à produire ce petit contenu-là en trouvant tes petites astuces pour que ça ne te prenne pas trop de temps. D'ailleurs, la meilleure astuce que je peux te donner pour les vidéos, surtout si elles sont rapides, c'est n'en tourne jamais une à la fois. Si tu te mets en condition de tournage, tourne-en 2 ou 3 directement d'un coup parce que... C'est l'énergie qui t'aura fallu pour installer ton matériel, etc. Au moins, tu le dépenseras qu'une fois pour 3 vidéos, quoi.
Ouais, alors après, j'ai un autre problème sur ça, c'est que j'essaye de cibler quand même plus les Américains. Et je m'étais dit, si je fais des vidéos tuto, j'aimerais bien avoir en fait une voix off pour pouvoir parler en anglais dessus, en fait. Et l'anglais, ça fait 5 ans que j'habite ici, mais je ne le maîtrise pas super bien encore. Donc c'est pour ça que je ne me sens pas à l'aise de parler en anglais face à la caméra. Et je m'étais dit, une vidéo où on voit mes mains et une voix off qui parle dessus, éventuellement ça pourrait aussi servir à je pourrais aussi en faire une en français, pourquoi pas. Est-ce que tu penses que ça se regarde bien ça aussi?
Ouais, ça se regarde très très bien. Par contre, il faut passer du temps pour sous-titrer au moins les 30 premières secondes, tu vois. C'est très important parce que suivant les plateformes où tu vas mettre, les gens n'activent pas tout de suite le son, donc ils se font accrocher par le texte et après t'es pas obligé de la sous-titrer en entier, au moins les 20-30 premières secondes, parce que c'est le temps d'engager en fait le cerveau à vouloir connaître la suite, et après ils activeront le son, il n'y a pas de problème. Mais la voix off et le contenu voix off a encore de beaux jours devant lui. C'est quelque chose qui marche assez bien sur les réseaux. Je m'étais même posé la question de le faire à un moment donné, moi aussi, ou pas. Et puis toi, ça te donne la liberté de toucher tes 2 marchés, parce que bah, après, effectivement, comme tu le dis si bien, tu as travaillé, entre guillemets, qu'une fois ta vidéo, et tu peux la sortir de 2 versions différentes. Et la voix off, tu peux la faire, effectivement, enregistrée par quelqu'un d'autre, j'imagine, peut-être même par ton mari. C'est plutôt malin, c'est plutôt une bonne idée, ça, parce que... Ton contenu pourra toujours te servir et ça t'oblige pas à te mettre en scène, donc tu vas être même pas en plus bloqué par rapport aussi à ton propre visage, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est pas anodin de se mettre en scène en vidéo et de te faire voir sa tête en vidéo. Je trouve que c'est une bonne idée. En plus, tu peux trouver aussi maintenant des sites en freelance. Il y a un site par exemple qui s'appelle Caption, K-A-P-T-I-O-N. Tu leur envoies une vidéo. Il t'envoie les sous-titres de la vidéo en français et en anglais. Et ça coûte pas très cher. Vraiment, une vidéo d'une minute, tu en as peut-être pour 10 euros. Tu vois, c'est quelque chose de tout à fait raisonnable et qui, toi, te ferait gagner quand même beaucoup de temps. Mais oui, moi je partirais là-dessus. En gros, je pense par rapport à tout ce que tu m'as dit, il y a ce fait de développer les vidéos. Alors, les vidéos en plus... Tu peux les mettre une fois qu'une vidéo est tournée, t'hésite pas, tu la mets sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Tu vois, ça prend pas énormément de temps en plus. Les contenus croisés se mangent pas les uns sur les autres. J'en fais l'expérience chaque jour en mettant des anciennes vidéos de YouTube sur Instagram. J'ai jamais eu un commentaire qui dit « Mais cette vidéo, on l'a déjà vue sur YouTube ?» En général, quand même, les gens ne transpercent pas trop d'une plateforme à une autre. Chacun a ses petites plateformes privilégiées, donc ça vaut le coup de... Quand on fait une vidéo, de se dire « j'ai fait 3 fois le taf parce que je peux la mettre sur les 3 réseaux ». Donc ça, je crois que c'est une très très bonne idée pour toi. La deuxième chose, Bah, continue d'infiltrer les groupes, par contre, ça c'est bien. Et puis la troisième chose, de taper sur des ce qu'on appelle donc les micro-influenceurs de communautés 10-15 000 personnes pour leur faire ces petits cadeaux-là en les contactant. Tu verras que tu n'auras aucun problème à récupérer leur adresse. C'est assez simple à faire. Et ça, je crois vraiment que c'est ta pierre angulaire pour amener du flux et pour amener les premières commandes, ou du moins les nouvelles commandes.
Ouais. C'est des super bonnes idées.
Ben, écoute, nous, ça va faire 40 minutes qu'on est ensemble, donc on arrive à la fin. Déjà, merci pour tout, parce que c'était ton profil, il est passionnant, de par ton profil en lui-même, de par le fait que tu sois allé habiter à l'étranger, donc à la fois tu touches un marché américain, un marché français, etc. Ton activité qui... elle est un peu géniale parce que, comme tu l'as dit, tu ne cherches pas forcément à en vivre. Et en même temps, quand on fait un truc, c'est bah, pour... C'est, en fait, ce qui est marrant, c'est que toi, je pense que l'acte de vente, il n'est pas forcément pécunier. Il est aussi dans le truc de, voilà, je fabrique quelque chose, ça me plaît, il y a quelqu'un qui l'obtient, quoi, tu vois.
Complètement.
Et ça, je comprends tout à fait. C'est pour ça que je te dis, il y a une vraie démarche artistique dans ce que tu fais. Donc, j'espère que ça va fonctionner. J'espère, je ne te le cache pas, que peut-être j'aurai un petit sac personnalisé un jour. Et dans ces cas-là, je t'en fais la promesse ici publiquement. Je serai le premier à le partager sur tous les réseaux et à te faire un bon coup de pub. Ça marche ?
Ouais, ça marche. Pas de problème.
Bon, ben écoute, Emeline, je vais te laisser sur ces belles paroles. Par mail, tu m'enverras quand même un lien vers la boutique. Je le mettrai dans la description de ce podcast. Même si on n'est pas extrêmement nombreux, on est 1000 à 2000 à écouter. Et donc, si ça vous intéresse, allez voir ça et allez voir Emeline aussi sur les réseaux. Et puis nous deux, on se tient au courant. Hein. Tu me tiendras au courant de comment aussi ça se développe, de si t'as envoyé un sac à quelqu'un, quelles sont les retombées, et pourquoi pas se faire un petit peu un débrief dans 6 mois ou dans un an, ou un peu avant Noël, tu vois, de savoir comment ça s'est passé, si on a d'autres idées, qu'est-ce qui te plairait, ou tu vois, avec grand plaisir.
Ouais, ben merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de t'adapter à mes horaires parce que c'est pas forcément évident de pouvoir se parler. J'apprécie beaucoup tous tes conseils et de toute façon tout ce que tu fais en général. Donc c'était un grand honneur pour moi de faire cette entrevue avec toi.
Plaisir partagé. Emeline, je t'embrasse. Quant à vous, n'hésitez pas déjà à vous abonner sur la plateforme où vous êtes en train de m'écouter. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'ai arrêté de dire le mardi et le vendredi parce que ça sort le mardi et le vendredi. Quand ça sort, à très bientôt. Ciao.
Camp, faites tremper votre cerveau à midi, le mardi et le vendredi, en direct sur Storm et à 13h sur toutes les plateformes.